Alors nous sommes vendredi soir, on est à passer la moitié de ce Paléo Festival de Nyon. On est en compagnie des deux, j'ai envie de dire mentors, créateurs, il y a peut-être d'autres termes qu'ils pourront me donner, Jacques Monnier et Daniel Rossella. Bonjour messieurs, comment ça va Daniel?
Bonjour, ça va très bien. Là il y a une éclaircie, un peu de soleil, le moral est bon.
Ça va, super. Trois premières belles soirées. Tout le monde est content, c'est très serein, le public est serein, l'organisation est sereine, donc que du bonheur.
J'ai dit mentor, créateur, vous auriez quoi comme autre terme ou quels sont les termes que vous entendez de temps en temps vous concernant?
Oh, pas tellement parce que ça ne nous rajeunit pas, quoi. Non, je suis évidemment fondateur, on le dit de temps en temps, mais moi je n'utilise pas souvent ce terme. Je suis président, puis c'est déjà pas mal.
On peut dire aussi ami d'enfance, parce que moi je connais Daniel depuis l'âge de 5 ans, donc ça fait plus de 60 ans maintenant. Et puis on a fait toute notre vie côte à côte, autour de ce festival qui est notre raison de vivre.
Je sors un peu du sujet pour lequel je vous ai convoqué. Vous avez fait vos écoles à Nyon ensemble, c'est ça?
Non, on habitait à Changin ensemble. J'ai fait l'école avec la sœur de Jacques qui s'appelle Françoise. Et Changin, c'était un paradis. Il y avait un château, une ferme. C'était la station fédérale de recherche agronomique et le père de Jacques était le fermier de la ferme qui était juste à côté, donc on était voisins et compagnons de jeu. Pas trop pour le sport parce que Jacques était moins bon, en tout cas moins passionné que moi, pour le foot notamment.
Et à quel moment, parce que c'est pas en 76 en faisant le premier paléo que vous vous êtes dit ça y est, à quel moment vous vous êtes dit non, là on va commencer à organiser du truc et se marrer un peu?
En fait, je dirais que la genèse de tout ça, je pense que c'est le film de Woodstock. Quand il est sorti, ça devait être en 1970, on est allé avec Daniel voir ce film à Genève. Et là, en 2h30, on a découvert Jimi Hendrix, John Baez, Santana, Crosby, Stills, Nash & Young, enfin, plein d'artistes qu'on connaissait pas. Et en sortant de là, on s'est pas dit on veut faire la même chose, mais je pense que inconsciemment, c'est un peu la genèse, le démarrage de notre festival dans notre tête. Et puis tout ça a grandi à partir de 1976 où on a démarré dans la salle communale de Nyon.
Alors on en vient à ce pourquoi je vous ai demandé de m'accorder un petit peu de temps, c'est parler de ces artistes, artistes des années 70, voire 60, 80, 90, qui ont marqué l'histoire du Paléo Festival, mais l'histoire de la musique dans le monde entier, et qui ici ont amené leur petite touche, parce que avec chaque artiste, il y a une histoire. Il y en a certains pour qui l'histoire est anecdotique, très affective, rocambolesque, là je pense à notamment Oasis, mais on va peut-être commencer par Charles Trenet, parce que c'est l'un des premiers noms que vous m'avez cité. Je crois que c'est Daniel qui a un lien avec l'histoire de la venue de Charles Trenet.
En fait, j'avais vu Charles Trenet au Printemps de Bourges. Charles Trenet avait arrêté d'être sur scène pendant très longtemps. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a réussi à le convaincre de remonter sur scène. C'est Gilbert Rozon, qui après a créé Juste pour rire. Après, il a eu un certain nombre d'ennuis, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un spectacle très émouvant, très touchant. Mais en même temps, ce n'était pas du tout un artiste de la génération des gens qui venaient voir notre festival. Et c'était un peu un pari. D'ailleurs, quand j'avais annoncé qu'on allait inviter Charles Trenet, il y a plusieurs personnes, dont des gens qui me paraissaient très vieux à l'époque, qui disaient « mais tu ne vas pas inviter cet artiste ». Hein, bon. Et finalement, c'était un show très, très touchant, très émouvant. Mais ce que je me souviens, c'est quand il est arrivé, et qu'il a vu qu'il n'y avait pas de chaises devant la scène. Et il m'a demandé, mais elles sont où les chaises? Puis je lui ai expliqué qu'il n'y aurait pas de chaises. Et il était très surpris. Et plus j'essayais de le rassurer, plus il avait l'air inquiet, quoi. Et donc je me suis dit, oh là là, ça, c'est mal parti. Et puis on avait beaucoup de craintes parce qu'il était juste avant Jacques Higelin. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, oh là là, Jacques Higelin était une vraie tête d'affiche pour notre public. Et moi, j'avais peur que ça marche pas, quoi. Et là, tout d'un coup, il est monté sur scène et il a embarqué tout le monde. On en a attendu un tout petit moment. Il a commencé avec la chanson Fidèle. Et au bout de deux chansons, il y a tout le monde qui chantait en même temps. C'est un spectacle hyper émouvant. Et d'ailleurs, Jacques Higelin a eu pas mal de peine après, ce qui n'était pas du tout attendu. Et les gens qui avaient vécu les émotions du concert de Charles Trenet ont mis aussi un moment avant d'embarquer avec Jacques Higelin.
C'était en quelle année? Je ne vous ai pas demandé ça au tout début.
C'était en 89.
Donc c'était le dernier festival qui se déroulait au bord du lac à Collevrey.
Oui, c'était une édition très marquante parce que nous, on n'avait pas du tout envie de déménager de Collevrey. On trouvait que ce terrain, il était magnifique, il était idéal, il était génial. Et tout ce qu'on nous proposait comme autre terrain, on trouvait que ce n'était pas terrible. Et puis, on avait vraiment le vague à l'âme de devoir quitter Collevrey. Et c'est une édition extrêmement marquante parce qu'on avait l'impression que tous les spectateurs nous disaient « Allez, courage, on va vous suivre, on viendra avec vous sur le nouveau terrain. » Donc on avait déjà identifié le terrain de l'As, on avait même déjà fait un certain nombre de travaux préparatoires. Et cette dernière édition a été très, très marquante, d'ailleurs tout comme la première l'année suivante à l'As.
Vous ne regrettez pas du coup ?
Ben non, parce que c'est un échec qu'on a transformé en opportunité. Pour nous, de devoir quitter Collevrey, c'est vraiment un échec. Et c'était très difficile. Et puis au moment où on a dû comprendre qu'il n'y avait pas le choix, qu'il fallait qu'on déménage, on a mis un petit moment. Puis après, ça c'était vraiment une des grâces du collectif. Tout d'un coup, on a commencé à être dans la même mouvance qu'au tout début quand on est allé sur le terrain de Collevrey, c'est-à-dire d'imaginer, on pourrait mettre la grande scène ici, on pourrait mettre l'autre scène là, on pourrait mettre le club teint ici, on pourrait mettre le bar des musiciens là, etc. Ça. Et tout d'un coup, y a eu un enthousiasme assez incroyable de toutes les équipes pour réussir ce déménagement.
Charles Trainer, venu à Paléo Alas, si je ne m'abuse, j'essaie de le faire d'après de mémoire, hein, c'est juste ?
Oui, il est revenu une fois, et en fait on aurait dû rester sur un seul concert qui a été un moment mythique, la deuxième était un peu moins intéressante, mais si je reviens au concert de 89, c'est vrai qu'on était très, très flippés, parce qu'il y avait beaucoup de critiques, notamment même à l'interne, hein, les potes qui critiquaient notre choix, et je me souviens encore qu'avec Daniel, on était tous les deux sur la scène lors du premier morceau, et on était vraiment flippés, on ne savait pas si les gens allaient jeter des tomates ou applaudir. Donc jusqu'à la fin du premier morceau, on était hyper tendus. D'autant plus que le même soir, il y avait des groupes de rock, il y avait Mano Negra, rock alternatif. On se dit, mais si le public de Mano Negra vient là, ils ne vont pas comprendre, ça va mal se passer. Et puis c'est vrai qu'on était rassurés dès la première chanson.
De mémoire, la Mano a été découverte en 89 à Collevrey. C'était une première pour eux ici et puis une première pour beaucoup de monde. Et ils sont revenus très peu de temps après ici en club tête, en invité surprise et sur la grande scène. Là, je vous parle de ma mémoire d'adolescent. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai une bonne mémoire ?
Non, c'est bien ça. Ils sont revenus sur la grande scène et ils voulaient absolument rejouer sur la petite scène où ils avaient démarré. Mais entre-temps, la notoriété était énorme, donc on ne pouvait pas annoncer Mano Negra devant 2000 personnes au Club Ten. Donc on avait inventé un nom d'artiste, et c'était un espèce de concert surprise, mais avec un faux nom. Et les gens qui se sont retrouvés là, qui venaient par hasard, parce qu'ils ne connaissaient pas du tout le groupe qui n'existait pas, ont découvert Mano Negra pendant une heure, c'était un délire incroyable.
Alors 1990, c'est le déménagement. Moi, personnellement, c'est mon premier festival. Les festivals de Collevrey, je les vivais depuis la piscine parce que j'entendais les soundchecks. Mon premier festival, je me souviens avoir vu Johnny Clegg ici en 1990. Et puis, la venue de Miles Davis, que je n'ai pas vu personnellement, mais là aussi, il y a une histoire forte avec Miles Davis. Jacques ?
Oui, Miles Davis. En fait, on avait ce soir-là un projet avec une soirée très francophone, avec Georges Moustaki, Claude Nougaro, c'était l'époque de Nouga York, donc avec des musiciens américains, et puis Barbara. Et on a passé des mois et des mois à essayer de convaincre Barbara, on avait l'impression que ça allait se faire, elle n'avait jamais fait de festival, et au dernier moment, elle n'a pas osé venir. Elle joue plutôt dans des théâtres, donc jouer en plein air, ça lui a fait un petit peu peur. Donc on s'est retrouvé avec Georges Moustaki, Claude Nougaro et personne d'autre, et on vendait très peu de billets. Et on cherchait donc un artiste pour terminer cette soirée. Et puis on a trouvé par miracle Miles Davis qui était libre ce soir-là. Le problème, c'est qu'il jouait une semaine avant à Montreux. Donc il y avait un contrat d'exclusivité qui nous interdisait d'annoncer Miles Davis. Donc on a attendu plusieurs semaines. Et puis le jour où Miles Davis jouait à Montreux, on est allé là-bas, on a couvert la ville d'affiches, on distribuait des programmes. Ça, c'était une semaine avant le festival. Et là, les ventes ont explosé. Et Miles Davis a fait un concert exceptionnel. Habituellement, il tourne le doigt à la foule. Là, il a regardé la foule, il a souri. Et pour nous, c'était assez génial parce qu'on n'est pas un festival de jazz. Et on avait ici une des principales têtes d'affiche, le trompettiste de jazz. Donc pour nous, c'était un événement magique. Nougaro était comme un fou parce que c'était aussi son idole, jouer sur la même scène. Il y avait le lien avec la musique de Nouga York. Tous les musiciens de Nougaro étaient américains, donc c'était une des plus belles soirées qui reste dans nos mémoires.
Alors je, rep-
Oui. Peut-être qu'il faut quand même préciser encore quelque chose. C'est que Miles Davis, on avait un accord avec lui. On avait même signé un contrat pour qu'il vienne à Paléo 2 ou 3 ans avant. Et puis Claude Knobs m'avait appelé en me disant que ça n'allait pas du tout, que ce n'était pas possible, que si Miles Davis remontait sur scène, c'était à Montreux et nulle part ailleurs, etc. Donc à la fin, on a dit « Ok, on va lâcher ». On avait des discussions régulières pour essayer d'éviter des conflits de programmation entre nos deux festivals. Et donc, on avait abandonné le contrat qu'on avait avec Miles Davis au profit de Montreux. Et ce qui fait qu'au moment où on a souhaité avoir Miles Davis et que le festival de Montreux avait vendu tous les billets pour ce concert-là, ça a été plus facile de discuter aussi parce que c'était un peu un retour d'ascenseur quand même.
Et vous ne faisiez pas concurrence. Mais alors, je reprends les vous allez rajouter quelque chose.
J'avais une toute petite anecdote. En fait, à l'interne, on avait un nom de code pour l'artiste parce qu'on ne devait pas divulguer le nom, il ne fallait pas que ça sorte. Donc, c'était, pour nous, c'était Kilomètre des Boulons, Miles Davis.
Alors, je reprends le discours de Daniel sur la fin de Colovray, l'arrivée ici à Las, et ces quelques anecdotes que vous venez de me raconter sur le premier Paléo 1990. Est-ce que, justement, cette fameuse soirée-là, avec Nougaro, avec Miles Davis, vous êtes dit, non, mais ici, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de naître sur ce terrain dans lequel on fait notre premier paléo.
C'était surtout très rassurant de commencer comme ça, parce qu'effectivement, il y avait eu Johnny Clegg, et le public avait très bien réagi. Il y avait, en époque, on n'était pas complet d'avance, hein, loin de là, mais le public avait bien réagi. Mais on a quand même fini le dimanche avec une édition douchée, il pleuvait du matin au soir, et on avait Henri Dess, qui nous a probablement sauvé une partie du dimanche. Il y avait aussi Robert Charlebois, qui devait jouer sur la grande scène, et finalement on a rapatrié les concerts de la grande scène dans le chapiteau parce qu'il y avait beaucoup moins de spectateurs que prévu, puisque les gens achetaient en grande partie leurs billets le jour même, et ce qui fait qu'on avait 10 000 personnes sur le terrain alors que les premiers soirs on en avait à peu près 20 000. On a vécu là vraiment une pluie d'un dimanche mais incroyablement pluvieux. Et ben ça, ça a aussi été un élément marquant. Et Robert Charlebois avait trouvé extraordinaire l'énergie qu'avait eu l'organisation et tous les bénévoles. Il avait été très touché de voir comment on avait réussi à s'adapter à une situation qui était vraiment très contrariante au niveau de la météo.
On va faire un petit bond de 10 ans plus loin, en 2000, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup d'Oasis, qui refont quelques concerts, et ils les ont entamés en Angleterre pour un retour, une fratrie qui se réconcilie. Peut-être qu'elle se réconciliera ici avec le Paléo Festival un jour, hein, en touchant du bois, parce que en 2000, concert d'Oasis, et ça, il faut le rappeler quand même, il y a certaines personnes qui l'ont vécu, le concert a duré une dizaine de minutes, peut-être un petit peu plus.
Le concert a duré 20 minutes, et effectivement, pour nous, Oasis égale cauchemar. Parce que le groupe a commencé à jouer et il y a des gens qui ont commencé, comme dans tous les concerts de rock, à lancer des pièces de monnaie, des préservatifs. Et l'artiste s'est senti attaqué alors que c'est quand même un provocateur à l'origine. Donc il est sorti de scène, il était dans les loges. On a réussi, après des discussions, à le faire remonter sur scène au bout de 15 ou 20 minutes. Et en montant sur scène, il dit « voilà, on recommence, mais si quelqu'un jette quelque chose, on arrête définitivement ». À ce même moment, il y a des dizaines d'objets qui ont volé sur scène. Donc, il est parti. Et il est parti sur scène et impossible de le faire remonter. Il n'y avait pas vraiment de manager. Il y avait une personne qui était là, mais qui n'avait aucune influence sur lui. Donc, voilà, il a arrêté. Et nous, on a beaucoup voulu au groupe, à Liam Gallagher notamment, parce qu'il a fait prendre un risque énorme. Il y avait 35 000 personnes. Donc, ça peut mal tourner. Il peut y avoir des émeutes, des gens pas contents qui mettent le feu ou je ne sais quoi. Donc, il a fait prendre un risque à beaucoup de gens alors qu'il n'y avait vraiment pas de raison d'arrêter le concert. Donc, on a beaucoup voulu. Et puis, pour le punir, je ne sais pas, Daniel, si tu veux raconter ce qu'on a décidé de faire.
Ah oui, c'était...
C'était Liam Gallagher dont vous parliez, comme vous avez dit, le chanteur. On parle de Liam.
Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai dit aux artistes que là, ils nous faisaient prendre effectivement un risque très important. Ben, le but, c'était de leur dire, mais non, vous devez remonter sur scène, quoi. Et puis, en fait, Je leur ai dit, puis comme ils ne voulaient pas remonter, ben que quitteraient le terrain, que quand le dernier spectateur serait parti. Et donc, on les a enfermés dans leur loge. Ils ont appelé l'ambassade d'Angleterre à Berne. Il y a la gendarmerie qui nous a appelés pour savoir qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on prenait en otage ces artistes. Et on leur a expliqué la situation. On leur a dit, on ne lâchera pas. Ils ne quitteront pas le terrain aussi longtemps qu'il n'y aura pas le dernier spectateur qui a quitté le terrain. Parce que c'est trop facile de s'en aller comme ça. Et là, tout d'un coup, ils ont eu un peu peur que ça se passe mal. Je me souviens qu'on a fait une conférence de presse à 1h30 du matin pour expliquer ce qui s'est passé. Tout d'un coup, il y avait des journalistes anglophones qui étaient accrédités à Genève aux différentes missions anglaises aux Nations Unies et tout ça qui avaient débarqué. Ça nous a valu une petite notoriété dans la presse anglaise. Et puis, en fait, on a appris après que ce n'était pas du tout la première fois que ça se passait et que, comme Oasis, Liam Gallagher avait une approche très critique et dédaigneuse d'un certain nombre d'autres groupes de musique anglaise, et bien, les gens qui aimaient bien ces autres groupes étaient un peu des anti-fans et allaient assister à plusieurs concerts d'Oasis pour foutre la merde. Et là, ils y avaient parfaitement réussi, quoi.
C'était les fans de Blur, notamment, entre autres.
Ben oui, et puis parce qu'ils critiquaient, puis il y avait un peu une tension, comme il y a eu à l'époque entre les Beatles et les Rolling Stones ou d'autres. Et comme il avait une approche très dédaigneuse des autres groupes, notamment de Blur, mais pas que, hein, il y en avait encore deux, trois autres. Et bien évidemment, il y a des gens qui détestaient Blur et ils venaient au concert, ils achetaient un billet pour vraiment essayer de perturber le show.
Un fond intox, quelques jours après au Portugal, le concert a duré encore moins longtemps.
Oui, je crois qu'ils ont joué un quart d'heure au Portugal, quoi. Et puis ça s'est fini à Rock en Seine quelques années après, où une demi-heure avant de monter sur scène, ils se sont battus à coups de guitare dans les loges et ils ont annulé. Mais vraiment, le public était. Bah, c'était un quart d'heure, une demi-heure avant le concert. L'organisateur a dû annoncer que le groupe n'existait plus et il vient de se reformer là il y a quelques mois.
Alors la grande question que tout le monde se pose, parce qu'ils ont annoncé maintenant qu'ils ont terminé leur. Alors ils n'ont pas terminé leur série de concerts, mais tout est sold out. Et puis, il se dit qu'ils vont faire une tournée. Est-ce que si on vous dit, et si on faisait Oasis, vous dites jamais, au grand jamais, parce qu'on est rancunier, ou ça pourrait marquer le coup de la 50e? Je dis ça, je dis rien.
Bon, il faut voir dans quelle catégorie ils jouent. Hein. Quand on voit l'opération commerciale, parce que c'est quand même ça, hein, ils sont remontés sur scène. Je pense pas juste par amour fraternel et par amour de la musique. Hein. Y a le show puis il y a le business. Et là, je pense que le business a quand même pris un peu le pas. Quand on voit les prix des billets, le nombre de spectateurs, et puis vous faites le calcul, voyez bien que c'est hors d'atteinte. Ça veut dire que je pense qu'il y a que quelques très grands festivals qui auront les moyens de s'offrir Oasis s'ils faisaient une tournée de festival. Ou alors ils seraient devenus très raisonnables. Mais pour le moment, moi, ça me paraît hors d'atteinte.
Ils pourraient faire une tournée du pardon auprès de tous les festivals qu'ils ont plantés, peut-être.
Ça pourrait être sympa, effectivement. Et puis nous, on va devoir mesurer notre degré de rancune, quoi. Et de savoir si on est prêt à faire le pas. Mais effectivement, je pense qu'ils vont faire des très gros festivals avec 70 000 personnes ou des stades. Mais je pense qu'il y a relativement peu de chances qu'ils rejouent ici, quoi.
Daniel, vous avez parlé d'une certaine rancune. Alors, on parlait des Rolling Stones contre les Beatles, Blur contre Oasis. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve encore cet état d'esprit? Parce que c'est vrai que c'était le côté un peu rock'n'roll et un peu... C'était la com' de ces années-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve ce genre de petite rancœur entre peut-être des groupes de rap ou peut-être des groupes autres qui se font la guéguerre et que finalement, ça sert à tout le monde tout en desservant tout le monde?
Bon, il y a une notoriété qui est effectivement chez les rappeurs, que ce soit américains ou français, quelques rivalités avec quelques noms d'oiseaux qui sont échangés. À Paléo, nous, on propose toutes sortes d'artistes et on peut mettre le même soir à la fois du rap et du hard rock, de la chanson, de la pop, toutes sortes de styles. Et on a la chance d'avoir un public qui est curieux, qui est ouvert, qui est tolérant. Donc en tout cas pour nous depuis Oasis on n'a jamais eu une situation de ce genre, quoi.
On va faire un petit bond en avant à présent avec Neil Young Vous l'avez cité parmi les personnes que vous avez découvert à l'écran de ce film Woodstock, et on l'a aperçu sur la grande scène du Paléo Festival également, notamment en 2013 si je ne m'abuse. Racontez-nous, Jacques.
Bah, Neil Young, effectivement, on l'a découvert en 1970, on avait 15, Daniel avait 18 ans, j'avais 15 ans. Et depuis, c'est resté un de nos artistes favoris. Et on a eu la chance de l'accueillir en 2013. Et c'était un peu le rêve pour nous. Et moi, comme je suis fan, je suis allé devant la scène. Je ne vais jamais devant la scène, mais j'étais devant la scène en t-shirt. Tout le monde était très décontracté et en tenue d'été. Et en fait, la météo avait oublié de nous annoncer qu'il y avait un orage gigantesque annoncé ce soir-là, enfin peut-être pas annoncé, qui est arrivé au dernier moment. Et je regardais le concert, plus beau jour de ma vie, plus beau soir de ma vie. Tout d'un coup, je vois les arbres qui commencent à bouger, une goutte sur le t-shirt, deux gouttes, et ensuite des seaux d'eau déversés sur le public. C'était vraiment dantesque. Et on est passé, je pense, de 35 000 personnes à 3 000 peut-être à la fin. On n'a jamais vu ça. Les gens n'étaient pas équipés. Quand ils ont des parapluies, des pèlerines, les gens restent sous la pluie, il n'y a aucun souci. Mais là, ça pleuvait tellement que les gens étaient trempés jusqu'aux os. Donc très peu de monde devant la scène, mais un concert d'anthologie qui a marqué beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'en parlent encore parce que Neil Young a joué avec les éléments. Il a fait « Like a Hurricane » pendant 20 minutes. Il répondait au tonnerre avec sa guitare, son chapeau volait, le clavier avait un clavier qui était suspendu par des câbles qui bougeaient, il devait suivre son clavier sur scène. C'était un moment incroyable. Alors sur le moment, on était vraiment dépité, et après c'est vrai qu'avec du recul, ça reste un des concerts qui a marqué l'histoire du festival quand même.
On devrait normalement cette année faire le 50e. S'il n'y avait pas eu le Covid, on ferait la 50e édition du Paléo cette année. Elle aura lieu finalement dans 2 ans. Touchons du bois pareil, hein, tout peut arriver. Si je devais vous demander l'artiste ou le groupe qui, durant ces 48 premières éditions, vous a fait le plus frissonner, Daniel, pour vous ?
Ben, Neil Young, oui, bien sûr, c'était un moment incroyable. Ça, c'est des concerts d'anthologie. Hein. Moi, j'ai aussi le souvenir de Paul Simon. C'est un artiste que j'adorais, qui a vraiment toujours été innovant dans son approche. Beaucoup de gens le connaissaient juste avec son duo avec Art Garfunkel, et qui avait des chansons douces et gentilles et polies. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui allait toujours rechercher des nouveaux rythmes, des métissages. Il a été assez audacieux dans ses démarches musicales. Et puis, ben, quand il est venu ici, il pleuvait, là aussi. Et tout d'un coup, ben, la pluie, elle est allée sur scène, et les instruments, les uns après les autres, n'avaient plus de sono. Donc c'était vraiment difficile. Donc tout le groupe est sorti de scène. Et puis je suis allé le voir, puis il me dit « Oh, je suis vraiment désolé de ce qui se passe ». J'ai dit « Mais non, mais c'est, tu y es pour rien, quoi hein. ». Et on a essayé de rebrancher les instruments, et tout d'un coup, ben, la technique, ils m'ont dit « c'est possible, mais on peut y aller progressivement ». Donc pour le moment, on a un micro-voix et un micro-guitare. Et là, j'ai discuté avec Paul Simon, j'ai demandé voilà, « Est-ce que tu serais d'accord de remonter sur scène, seul, pendant un moment, pendant qu'on rebranche tous les autres sons ?» Puis il m'a dit « Ok, j'y vais ». Et là, il était seul à la guitare pendant 3 morceaux, en attendant que les autres puissent revenir. Et c'était un moment d'une émotion vraiment intense, parce que c'est arrivé plusieurs fois avec des artistes quand tout d'un coup, il y a un danger ou il y a quelque chose de complètement inattendu. Eh bien, tout d'un coup, il se passe des choses assez extraordinaires.
Et pour Jacques ?
Je pense qu'un concert qui m'a marqué, c'est Stéphane Escher en 2019. On devait avoir ce soir-là Stéphane Escher en ouverture et ensuite Chaka Ponk sur la grande scène. Et la chanteuse de Chaka Ponk avait une extinction de voix. Donc à 14h, le concert a été annulé alors qu'il jouait à 21h. Donc il restait quelques heures. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse la scène vide et il ne se passe rien ? Et on a eu la chance d'avoir Stéphane Escher sur le terrain, qui était un créateur incroyable, et d'entendre avec lui, avec d'autres musiciens qui étaient sur le terrain, que ce soit Robert Charlebois, il y a plein de groupes québécois, on a fait venir des artistes aussi du reste de la Suisse. Et en quelques heures, dans les loges, c'était une espèce de ruche créative, une création s'est montée en quelques heures avec une énergie incroyable. déployé par les artistes, par les techniciens. Et le concert a été magique. Je pense que si on avait décidé un an avant de faire une création de ce type-là avec Stéphane Escher, ça n'aurait pas été mieux. Donc pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie de festivalier, enfin d'organisateur du festival.
Ça n'aurait pas été mieux, voire même pas possible. C'est l'année où le Québec était un invité d'honneur. C'est un signal, ça. C'est un clin d'œil à Daniel. Et l'artiste ou le groupe qui a été le plus surprenant dans son caprice ou une demande particulière, un truc rigolo qui a été demandé. Moi, quand on s'est contacté, je vous parlais de James Brown, on m'avait dit qu'il avait demandé un tapis rouge, par exemple, pour accéder à la scène dans la boue. Je sais pas si c'est de l'info ou l'intox, mais est-ce qu'il y a des gens qui vous ont surpris en disant, ah ouais, ça, on ne l'avait jamais demandé?
Bon, c'était surtout, je dirais, à une époque où les artistes n'avaient pas le même accompagnement professionnel, ou avaient des approches relativement capricieuses. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même, il y a un encadrement vraiment professionnel et tout est bien préparé d'avance. Mais je m'appelle de Chuck Berry, c'était. Mais on avait été prévenu. Hein, au dernier moment, il demandait un supplément de cachet en dollars. Sinon, il refusait de monter sur scène. Pourquoi ? Parce que son manager serrait les finances parce qu'il dépensait trop d'argent. Donc, on était obligé. Alors, comme on savait, ben, on lui a versé 5 000 $ et on lui a fait signer une quittance. Et après, on est allé vers le manager en disant on a déjà versé un acompte directement à l'artiste. Et puis voilà, ben, heureusement, on avait notre réseau qui nous avait prévenu de ce type de caprice. Le reste, c'était plutôt lié à une préparation où tout d'un coup, je ne sais pas, on nous demande un piano blanc d'une marque et puis on doit faire le tour de la Suisse pour essayer de trouver ce piano blanc. Puis après, on dit à l'artiste, mais pourquoi vous vouliez absolument ça? Et il dit, mais moi, ça m'est égal, je peux jouer parfaitement avec un autre. Mais bon. Donc voilà, c'est pour dire que des fois, il y a eu des choses comme ça. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus rare. Ça peut arriver qu'en dernière minute, on a eu quelques artistes coutumiers d'être en retard ou de se faire attendre exprès, désirer. Puis après, ben, voilà, il faut improviser un petit peu pour mettre une certaine pression pour qu'ils jouent quand même à l'heure. Quoi. Mais je dirais que de manière générale, c'est beaucoup plus serein. Il y a moins de surprises parce qu'on est beaucoup mieux préparé, à la fois du côté des artistes et du côté de l'organisation.
Jacques ?
Oui, des petites anecdotes, mais effectivement, on doit être capable de répondre à ça. Je me souviens une année de Johnny Hallyday, enfin, l'entourage de Johnny Hallyday avait demandé des plateaux de fruits de mer pour manger après le concert. Donc voilà, c'était pas prévu dans le coin. Donc on envoie des équipes à Lausanne, dans un magasin spécialisé. On vient avec deux ou trois magnifiques plateaux de fruits de mer qu'on installe dans les loges, et quand les artistes sont partis, personne n'y avait touché. Donc ça fait le bonheur des rôles, c'est-à-dire les gens qui déménagent, qui vident les camions, qui chargent la scène, qui organisent tout. Donc à 2-3 heures du matin, ils se sont mangé le magnifique plateau de fruits de mer de Johnny, donc ça fait des heureux quand même.
Je m'excuse, l'interview s'éternise, j'ai plus que deux questions. Vous avez parlé des artistes qui arrivent en retard. Moi, j'ai le sentiment, mais c'est peut-être parce que je vieillis, mais que à l'origine, durant de 2000 à 2020, on a plutôt eu ou 2015, on a plutôt eu des artistes qui arrivaient justement en retard, où on traînait, ça poireautait et tout, et qu'aujourd'hui c'est comme sur du papier à lettres, c'est 20h15 et c'est timé. Il y a quelque chose qui a changé ou c'est juste une impression personnelle?
Bon, on est en Suisse d'abord. Non, mais je pense que c'est une question de respect du public. Et là, on a réussi, à la fois au niveau de l'organisation et des artistes qu'on invite, à dire que le public doit être respecté. Et si un concert est prévu à 20h30, on souhaite qu'il commence à 20h30. Moi, j'ai connu d'autres festivals, d'autres événements où il y avait une heure et demie de retard. Au bout d'un moment, mais c'est pas plaisant du tout. Pour le public. Donc voilà, moi je pense que c'est simplement une question de respect du public et on partage ça avec les artistes. Puis eux, ils ont aussi certains impératifs quand même. Surtout quand c'est des très grosses productions. Il y a plusieurs camions, des bus, des timings à respecter. Et donc maintenant, c'est quand même très rare qu'on débute un concert avec du retard.
Et ma dernière question, elle s'appelle Rumeur et légende, parce que moi je connaissais l'histoire et je la connais plus par cœur, mais j'ai entendu des plus jeunes qui ont la vingtaine, qui m'ont dit, tu sais que Paléo, ça s'appelle Paléo, parce que c'est un cheval sur qui ils ont parié, ils ont gagné de l'argent, ils ont fait le festival. J'ai dit, alors, c'est pas l'histoire, mais il y a une histoire de cheval. Est-ce qu'on peut la raconter pour tout de suite faire taire les rumeurs? Jacques ou Daniel?
Bon, c'est pas une rumeur. Effectivement, Paléo, c'est le nom d'un cheval de course, d'un trotteur. Il faut savoir que le père de Jacques s'occupait de chevaux de course et que l'été, on était à Cannes-sur-Mer, on gagnait un petit peu d'argent en s'occupant des chevaux, en nettoyant les boxes. Ou
en et non pas en pariant.
En les brossant. Non, non. Et on gagnait un tout petit peu d'argent de poche et on avait parié, effectivement. Comme on était toujours en train de boire l'apéro avec des gens qui étaient dans le milieu des courses, on avait parfois quelques tuyaux, comme on dit, et un peu moins percés que d'autres, peut-être. Et effectivement, on avait parié sur un cheval qui s'appelait Paléo. Et on avait gagné un petit peu d'argent, mais alors c'était pas largement pas assez pour organiser le festival. C'était, je sais pas, quelques dizaines de francs français. C'était pas énorme, mais ça nous avait porté chance. Puis après, on a dit, mais Paléo, c'est beau. Et pourquoi pas? Et donc, quand on a choisi le nom, nous, on a proposé Paléo. Il y a plein d'autres qui avaient... On a fait ça de manière démocratique au sein de l'association. Il y avait toutes sortes d'autres noms, comme Lotus, Chrysalis, Sarava, ou je ne sais pas. Et nous, on a choisi Paléo parce qu'on voulait un nom qui n'était pas lié à un style musical ou qui n'était pas lié à un lieu. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi Paléo. Mais c'était effectivement un cheval de course.
Et enfin... Un petit mot sur les artistes de cette année. Jusqu'à maintenant, votre coup de cœur, le plus beau concert que vous avez eu cette semaine. Je sais, c'est difficile parce que ça va faire des déçus, mais le plus beau concert de la semaine, jusqu'à présent.
Je pense que le plus gros succès public, c'est Macklemore. Le premier soir, dès le premier morceau, il a embarqué tout le monde applaudissait jusque tout en haut. Parfois, il faut quelques morceaux pour embarquer toute la foule. Et là, dès le premier morceau, c'est parti. Et ça a été un concert génial de la vie de tout le monde.
Daniel, votre avis ?
Bon, ben, c'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié le concert de Macklemore parce que c'était un show et où il y avait vraiment une incroyable communion, c'est un mot qu'on utilise souvent, mais entre le public et lui. Aussi pour Jean-Louis Aubert, il y avait une générosité de l'artiste, il rayonnait de bonheur et c'était réciproque avec tout le public. Là, il a passé pas mal de chansons de téléphone et bon, c'était la minute nostalgie, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu un instant de bonheur avec ce concert.
Merci messieurs, bon, bonne fin de Paléo, merci.
Merci, à bientôt.
Merci, bonne fin de semaine.
Et merci beaucoup, on a fait un véritable podcast. Que...